Et nous allons donc maintenant écouter Mathilde Servet sur la bibliothèque Troisième Lieu et la place des collections. Mathilde Servet est donc chef du service Savoir Pratique à la BPI.
L'idée effectivement aujourd'hui, c'était de vous parler un petit peu du rapport, merci beaucoup, du rapport de la bibliothèque Troisième Lieu aux collections. Alors, il y a un certain nombre de malentendus, si je puis dire, que j'aimerais lever au sujet du troisième lieu, qui est souvent réduit à un espace un petit peu design, dépourvu de collection, puis dépourvu de mission. Donc, bien sûr, c'est une lecture complètement erronée. De même que c'est une lecture complètement erronée d'opposer les publics aux collections, comme si on ne pouvait pas faire les deux, comme s'il fallait toujours tout opposer, ça n'a vraiment aucun sens. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer un petit peu. Par contre, effectivement, la démarche de la bibliothèque Troisième Lieu, c'est vraiment de partir des publics pour établir son offre de collection et son offre de service. Peut-être... Ah bah si, ça y est, ça passe maintenant, donc je peux avancer. Je vais juste vous rappeler un tout petit peu ce que c'est que cette histoire de Troisième Lieu, en essayant de le faire assez rapidement. C'est bon, voilà. Le troisième lieu, c'est une notion qui n'émane pas des bibliothèques, mais qui a été forgée par un sociologue urbain qui s'appelle Ray Oldenburg au début des années 80. Le premier lieu étant la sphère du foyer, le second, la sphère du travail. Et ce troisième lieu, qu'est-ce que c'est ? Ce serait un espace, finalement, qui permettrait l'épanouissement d'une vie communautaire informelle. Surtout à une époque où, effectivement, des villes tentaculaires se sont développées aux États-Unis sans véritable épicentre, et où les modes de vie sont de plus en plus individualisés et fragmentés. C'est vrai pour les États-Unis, mais c'est vrai aussi en France, où de nombreux économistes, hein, comme Daniel Cohen et Yann Algan, travaillent sur la notion de confiance et de solidarité entre les gens qui s'étiole particulièrement en France, où les résultats sont le plus mauvais. On est un des pays où on est les plus pessimistes, plus qu'en Irak et plus qu'en Afghanistan. C'est Jean-Louis Sanchez, dans un bouquin qui s'appelle « La promesse de l'autre », qui fait part de cette étude, et où il y a le moins de confiance, en tout cas, un des pays où il y a le moins de confiance entre les individus. Donc effectivement, il est capital, que ce soit la bibliothèque qu'il fasse ou d'autres entités, de restaurer ce lien d'identité communautaire entre les gens. Et ce lien d'identité communautaire, il passe bien sûr aussi par des missions culturelles. Qu'est-ce que c'est que le troisième lieu ? Donc le propre du troisième lieu, ça va être un espace d'assimilation, d'intégration, d'inclusion sociale, de mixité. Et c'est capital, effectivement, de disposer d'espaces gratuits pour ce faire, puisque de toute façon, sinon, ça va être investi par le privé. D'ailleurs, Starbucks l'a bien compris, puisqu'il se sert beaucoup de cette histoire de troisième lieu, qui met à la sauce un petit peu Friends et qui joue sur des valeurs de convivialité, de fraternité, sauf qu'effectivement, là, il s'agit d'une démarche éminemment marchande, ce en quoi Ray Oldenburg, fondateur de cette notion, s'inscrit en faux. Donc le troisième lieu, bien sûr, ça équivaut au tiers lieu, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est la même chose. Ce sont des lieux éminemment communs, en ce sens, je ne vois pas d'opposition entre un troisième lieu et un lieu commun. Au contraire, on va voir à quel point ça peut être commun. Et c'est un terme générique, finalement, pour désigner une large variété de lieux publics qui accueillent des rassemblements réguliers, volontaires, joyeux. Et c'est particulièrement important aujourd'hui, puisque si on reprend, si vous avez lu un peu François de Singly, notamment un ouvrage très, très intéressant qui s'appelle « Les uns avec les autres », il dit qu'aujourd'hui, on n'est plus dans des modes de société holistes, c'est-à-dire qu'on ne va plus accepter effectivement de se soumettre à des codes dans la société, etc., autant qu'on le faisait par avant, pour simplifier un peu le propos. Et donc, il va falloir essayer de créer, de nourrir un « nous » qui va sachez respecter les différentes individualités, les différents « je » dans leur liberté et dans leur complexité identitaire. Un lien qui sache unir, mais qui sache pas trop, sans trop serrer. Sinon, ça ne sera plus possible, puisqu'on n'est plus, effectivement, dans ce mode de fonctionnement-là. Alors, qu'est-ce que ça va apporter et quelles sont les caractéristiques, finalement, de ce troisième lieu ? D'abord, la première chose, c'est que c'est un terrain éminemment neutre. C'est un terrain qui appartient à tout le monde. Comme le coin de la rue, comme les places de marché, comme les parcs, tout le monde est le bienvenu dans ces lieux. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la fraternité qui est très fort. Et en même temps, on est indépendant. C'est que ça va résoudre en fait, un petit peu le paradoxe de la sociabilité dans la sphère privée, où on a des obligations vis-à-vis des gens qu'on connaît. Là, on peut aller venir à sa guise. C'est un niveleur social. D'ailleurs, c'est l'origine du mot pub. Enfin, c'est l'origine, au départ, les pubs s'appelaient des levelers, donc qui met les gens sur un même pied d'égalité. C'est inclusif, on va déposer ses insignes à l'entrée dans un troisième lieu. Il n'y a pas de critères formels pour l'adhésion. Et ça va, au moins momentanément, apaiser, voire neutraliser de façon passagère les maux de la société, comme l'échec professionnel ou l'exclusion. C'est très visible et c'est très palpable dans l'étude de Serge Pogam, qu'il a fait sur la bibliothèque sur la BPI, où effectivement la bibliothèque est assimilée pour certains même à l'unique maison. Donc c'est très fort quand même. C'est des espaces qui sont caractérisés par, dont le moteur soit un petit peu la conversation et l'échange, mais des échanges vivants, des échanges engageants, dans une approche enjouée, hein, dans laquelle on apprécie vraiment la compagnie de ses semblables. Ça, c'est fondamental. Ce sont des lieux accessibles, alors accessibles à tout niveau. Hein. Si on veut qu'une vie communautaire soit possible, il faut qu'en termes horaires, on puisse se rendre dans les lieux à tout moment, en dehors de son temps de travail, évidemment. D'où la pétition actuelle. Après, on en pense ce qu'on en veut sur la formulation de la pétition, mais sur le fond, c'est ça. Il faut qu'il y ait une proximité géographique et une large amplitude horaire. Et c'est surtout un lieu où vraiment on peut s'en sentir le bienvenu. Or, de nombreuses études sur les bibliothèques montrent aujourd'hui qu'il y a au moins encore 50% des gens qui se sentent inhibés par la bibliothèque. Donc c'est dire si la marge est grande de manœuvre. Ce sont aussi des espaces de plaisir, d'amusement. Il y a un sociologue, effectivement, que Oldenbourg met beaucoup en relation avec son travail, c'est Johan Huizinga, qui travaille sur le jeu, l'histoire du jeu, et il y a une forte parenté entre le troisième lieu et un terrain de jeu, un terrain de découverte, un terrain d'exploration, et la bibliothèque peut tout à fait être ça. Et la nature du jeu, d'ailleurs, va favoriser l'association entre les individus, hein, le jeu, le club et le jeu, mais un club non exclusif, hein, j'insiste bien là-dessus, vont très bien fonctionner ensemble. Ça va produire un espèce de moment magique qu'on va avoir envie de recréer, de répéter par la grâce de la présence des autres. Ce sont des home away from home, souvent ces troisième lieux. Qu'est-ce que c'est que cette chose? En fait, ce sont des lieux qui font figure un peu de living room public urbain. Ces troisième lieux, ils vont souvent surpasser le premier lieu en termes de, dans leurs propres attributs, en termes de confort, hein, parce qu'ils sont plus accueillants. Il y a 5 caractéristiques. D'abord, ils vont procurer un ancrage physique autour duquel au moins une partie de la vie de l'individu va pouvoir se développer. Il y aura de la présence d'habitués. On va s'approprier le lieu, on va le voir dans la bibliothèque, alors qu'il ne nous appartient pas, hein, c'est ça le paradoxe. Et on va tendre à s'y comporter un petit peu comme chez soi, on va développer un sentiment de familiarité parce qu'on s'en sent membre, en quelque sorte. Et ça va provoquer un petit peu de réparation du lien social, beaucoup même dans certains cas. Et ça va produire un effet de fontaine de jouvence un petit peu sociale, parce qu'on va être à l'aise, on va avoir la liberté d'être soi-même, la chaleur et la convivialité, l'entraide, l'intérêt mutuel qui renforce un petit peu un sentiment d'être en lien avec les autres et en vie. Les bénéfices personnels, c'est que ça va rompre la routine, ça va permettre de se frotter au monde. Hein. Il va avoir un petit peu une notion, une dimension de surprise, d'aventure, de risque. On va surtout retrouver des personnes d'horizons très différents. Hein. C'est la richesse des contacts humains, ça va produire une forme d'œcuménisme social. Et ça va aussi engendrer une vision plus positive des autres, parce que dans le quotidien, le chauffeur de bus, le voisin dans le métro, on est souvent dans des rapports parfois un petit peu tendus. Or là, on va être dans un espace qui va neutraliser un petit peu ça, et on va développer une vision plus positive. Ça va avoir un rôle thérapeutique. Hein. D'ailleurs, c'est ce que disait Christophe Evans dans son étude « Les habitués » dédiés aux habitués de la Bibliothèque publique d'information. Et en ce sens, les troisièmes lieux, ils jouent un rôle éminemment politique. Quand je lis quelquefois que ça n'a aucune intention politique, je pense que c'est une interprétation totalement erronée. Le troisième lieu, son fondement, c'est vraiment la mixité sociale, c'est de lutter contre ce qu'appelle une bibliothèque suédoise la mixophobia, donc cette allergie aux autres, un petit peu à ce qui est différent, cette allergie à l'altérité. Et donc ça va essayer effectivement de nourrir un sentiment d'affiliation, d'appartenance, ça va procurer des bases du vivre ensemble, hein. Justement Daniel Cohen dans Homo Economicus ou Yann Algan dans ses ouvrages sur la confiance qui favorise aussi les liens économiques ou encore le sociologue Sébastien Rocher disent qu'il est plus que temps de développer une société d'hospitalité. Et ça va aider donc à restaurer cette confiance et l'esprit démocratique à mieux vivre ensemble. Alors qu'est-ce que c'est que les troisièmes lieux? Je vais vous en donner quelques exemples. Pour Oldenbourg, c'était la matrice idéale du troisième lieu, c'était une certaine acception du café, mais qui aujourd'hui est erronée, puisque un peu descendant de l'agora grecque, et le café aujourd'hui s'adresse à des publics très spécifiques, et en plus le café est payant. Mais c'était aussi des biergarten, des pubs, des drugstores, des épiceries de quartier, des échoppes de barbiers, des bureaux de poste, des églises, des écoles, des piazzas, des places de marché, des rues, des bancs publics, des clubs sportifs, des chorales, des associations, etc. Et aujourd'hui, c'est toujours des places, des parcs, des lieux publics, parfois des manifestations, type Paris-Plage, quoi qu'encore, à voir si tout le monde s'y réunit vraiment. Ça peut toujours être des écoles, certains cafés, mais c'est aussi des Fab Labs, des City Labs, des espaces d'échange, de collaboration et beaucoup de lieux impliquant des livres qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement toujours des bibliothèques. Si vous regardez l'exemple du Muséum Squartier, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une place qui relie des musées à Vienne. C'était une place qui était vide, mais en injectant des îlots de sociabilité, on a vu qu'il y a plein de gens que ça draine. Pourquoi ils viennent là ? Parce que c'est plein de vie, c'est très vivant, il y a des happenings culturels, on va au musée, on sort, on rencontre d'autres, on échange, on parle, on lit, on dort, et on lit en masse. J'ai des centaines de photos de gens qui lisent sur cette place. Donc c'est bon signe, les gens lisent, mais pour lire, il leur faut des conditions adéquates, il faut être en connexion avec la vie. C'est ce que dit un urbaniste danois qui s'appelle Jan Gehl, dont je vous conseille fortement la lecture, qui écrit notamment des villes à échelle plus humaine, et il dit exactement de la ville ce que doit être la bibliothèque, c'est-à-dire que les choses doivent être à taille humaine. On doit créer des villes animées, sociales, sûres, vivantes, populaires. Et la bibliothèque, elle doit faire, elle doit s'en inspirer fortement, en tout cas si elle tend à être une bibliothèque troisième lieu. Alors, pourquoi finalement la bibliothèque, elle pourrait être un troisième lieu, voire un troisième lieu idéal ? Mais tout simplement parce qu'elle a toujours été, moi j'ai jamais dit que c'était quelque chose de fondamentalement nouveau. Je pense que dans son ADN, elle l'est profondément, et c'est pas moi qui le dis, c'est un historien britannique des bibliothèques qui s'appelle Alistair Black qui dit « Elle représente des endroits neutres, gommant les clivages sociaux, plutôt sans prétention, communautaires. Elle constitue des territoires familiers, confortables, accessibles, qui favorisent l'interaction, la conversation dans certaines limites. » Et une ambiance enjouée. Elles sont fréquentées par des habitués, font fonction de second chez soi, soulageant les individus du train-train quotidien, procurant réconfort et distraction. Et vous voyez à quel point ça se superpose, la description du troisième lieu, ou d'un certain type, en tout cas, de bibliothèque. Et finalement, c'est un des derniers lieux publics, avec les jardins, où c'est gratuit, où c'est propice à la mixité sociale et où il y a des vraies opportunités de rencontre. Et en ce sens, la bibliothèque, elle va renforcer sa vocation sociale. Ça va être finalement un troisième lieu culturel qui va proposer des services démultipliés, des cheminements très variés vers la culture, parce qu'il faut s'adresser à tous les usagers et pas seulement à un type d'usager. Et il n'est pas question là non plus de chasser des usagers pour d'autres. Et donc la bibliothèque, elle va plutôt se développer en ce sens-là comme un centre culturel communautaire qui se démarque de l'appréhension de la bibliothèque comme temple du savoir. Donc la bibliothèque troisième lieu, qu'est-ce que ça sera ? Ça serait une bibliothèque fondée sur les publics et sur leurs besoins. L'optique troisième lieu, c'est vraiment une optique humaniste avec un rôle très politique, et j'insiste, un lieu culturel pour tous, très ouvert, généreux, inclusif, bigarré à l'image de la vie, finalement. C'est Michel Melot aussi qui le disait, la bibliothèque, ça doit être bien plus, effectivement, que des collections. Ça doit être, effectivement, les usagers, mais ça doit inviter la billarure de la vie dans toute sa palette à entrer à l'intérieur. Ça doit être une caisse de résonance de la vie. Et ça doit désinhiber l'usager, faire un lieu vraiment pour lui, sans à l'aise, lui signaler vraiment que c'est pour lui, et partir des usagers concrets et non des usagers idéaux. Moi, j'ai été enseignante pendant des années, effectivement, à l'UFM, on travaille toujours avec des élèves qui n'existent pas, quelque part. Par contre, quand vous travaillez 15 ans, pendant 15 établissements, enfin, j'ai pas travaillé 15 ans, mais je travaille dans 15 établissements en Seine-Saint-Denis, vous êtes bien obligé de faire avec le public tel qu'il est, et c'est pas celui forcément qu'on souhaite. Et ce n'est pas celui forcément qui connaît Spinoza, pour reprendre une conversation de ce matin. Donc déjà, il faut leur signaler effectivement que la bibliothèque, à ses usagers, ça peut être des choses pour eux. Là, c'est une campagne de pub de la bibliothèque de Limoges qui insiste sur effectivement l'image de la bibliothèque comme à la maison. Et l'idée, c'est de faire de la bibliothèque vraiment un lieu très public, hein, un espace très profane, pour reprendre une typologie qu'avait établie Christophe Evans, d'établissements profanes et d'établissements un petit peu sacralisés, comme la BNF dont je viens. D'ailleurs, Perrault dit qu'il s'est inspiré d'une abbaye pour concevoir la BNF, donc on est vraiment dans le côté sacralisé. Et donc l'idée, c'est de gommer cette image un petit peu trop institutionnelle, un petit peu pro-formelle. Les personnes qui ont été interrogées pour les ID Stores ont dit à 95% que effectivement la bibliothèque, c'était fondamental, donc excellente nouvelle. Par contre, elles disent que ça leur rappelle trop souvent l'univers scolaire, un univers qui n'est pas le leur, un univers dans lequel ils ont connu l'échec. Et le bâtiment, il peut traduire ça dans sa sémantique. Ça ne veut pas dire qu'on se focalise sur le lieu, mais ça veut dire qu'on va essayer de faire des lieux plus accueillants, étant bien entendu que ce n'est pas la mission la plus fondamentale. Si c'est seulement mettre des canapés violets dans des coins, ça n'a aucun intérêt. Donc, il va falloir effectivement faire des lieux auxquels on peut davantage s'identifier. C'est pas moi, c'est aussi votre ouvrage qui le dit, ce n'est pas seulement moi. C'est faire une bibliothèque, comme je vous le disais, à taille humaine, accueillante, animée, vivante, sûre, durable, permettant le contact, la proximité, la mixité, la rencontre avec l'autre et l'altérité. Et en développant d'autres univers, ou en les concevant avec les usagers, comme cette espèce de canapé bleu que vous avez vu, les architectes ont travaillé avec des enfants à Hérougovart, et ils ont intégré l'idée des enfants d'avoir une espèce de canapé de sociabilité, de lecture, de jeu, de discussion, et c'est vraiment un poumon de sociabilité dans cette bibliothèque. On va effectivement imprimer, ça c'est Kultur UZ en Suède, on va imprimer une image plus ludique, plus stimulante des espaces. Et on va être un petit peu à la jonction entre la sphère privée et la sphère intime. Et ça va permettre une autre appropriation de la bibliothèque. Ça va devenir un petit peu le terrain, effectivement, le territoire des usagers. Vous voyez à Rotterdam où ces usagers ont les jambes courbées. D'ailleurs, ils n'ont pas d'autre le choix. Les mobiliers les y invitent. Alors, à l'OBA, c'est le même principe. Là, on a d'autres choix que d'opter pour une posture pour laquelle on opterait traditionnellement à la maison, c'est-à-dire d'être un petit peu en tailleur. Les gens se déchaussent, les gens se sentent davantage à l'aise. Vous voyez, ça c'est Seinäjoki qui a ouvert il y a un an et demi en Finlande. Vous avez même des grottes de lecture. Alors ça peut paraître anecdotique, hein, mais ça l'est pas du tout. Et là, c'est le Rolex Learning Center, parce qu'on peut observer un même phénomène en BU et dans des Learning Centers. Et le Rolex Learning Center, c'est vraiment une forme de troisième lieu, effectivement, à échelle universitaire, dont les gens peuvent s'accaparer, s'approprier effectivement le territoire. Ça, c'est la Libraryten en Finlande. La Libraryten, c'est la bibliothèque qui connaît le plus haut taux de fréquentation de toute la Finlande et qui capte des publics essentiellement masculins de 18 à 35 ans. Donc, il faut aussi s'interroger pourquoi dans certaines bibliothèques ça fonctionne et quels sont les ressorts à l'œuvre. Et je peux vous garantir qu'en termes de collection et de médiation culturelle, c'est remarquable ce qu'ils font et ce n'est pas du tout farfelu. Donc ça, c'est la bibliothèque Marguerite Yourcenar, mais on pourrait multiplier les exemples à l'envi, et aussi d'autoriser quelquefois d'autres usages, mais il faut que ça soit approprié. Hein. C'est vrai que dans une grande bibliothèque comme la BPI, où on a des souris, ça ne l'est pas forcément, mais quelquefois, effectivement, pouvoir manger, se restaurer, parce que c'est aussi des besoins humains, ça favorise un rapport plus informel aux choses. C'est le cas aussi au Rolex Learning Center. Alors, quel rapport, finalement, avec les collections dans tout ça, et quelle collection, quelle culture, finalement? Il ne s'agit pas, je vous l'ai déjà dit, d'une approche collection versus public. Il faut absolument arrêter de faire ça et de tout opposer, tout le temps. Mais par contre, il s'agit de partir des usagers tels qu'ils sont, et de partir vraiment de là où ils sont, et pas d'où on aimerait qu'ils soient. Ce qui signifie pas non plus proposer n'importe quoi et faire les choses n'importe comment. Il y a une très belle définition du service public dans votre ouvrage qui dit « Le service public, et c'est sa seule légitimité, c'est de répondre aux besoins sociétaux, aux besoins des utilisateurs, usagers, consommateurs, activités économiques et sociales, des citoyens et chaque collectivité à tous les niveaux d'organisation. » Le service public, c'est ça. Donc les collections, effectivement, elles doivent être un miroir de ces besoins et du contexte très spécifique dans lequel s'ancrent les bibliothèques. Et c'est ça qui va définir l'ADN, finalement, documentaire et du projet d'établissement en correspondance. Si on prend des dizaines de projets qu'on pourrait typer troisième lieu, comme les ID Stores, la Libraryten, les ID Stores, c'est ces bibliothèques de Londres qui associent des offres de formation et des centres de santé ou d'aide à la recherche dans l'emploi. La Libraryten, c'est cette bibliothèque musicale avec un volet de médiation très fort à Helsinki que je viens de montrer. Tapanila, c'est une formidable petite bibliothèque de banlieue perdue dans la forêt où il y a une vie communautaire hallucinante dans cette bibliothèque. C'est des taux de fréquentation qui ne nous feraient pas lire d'envie. Hein. C'est 70% de la communauté. L'OBA, ce serait plutôt une grande bibliothèque urbaine un petit peu cool, ponctuée de plein de Mac comme ça, hein, qui s'adresse à des jeunes urbains, mais pas que. La DOC, c'est cette bibliothèque qui a connu jusqu'à 92% de fréquentation d'inscrits. Saint-Aubin-du-Pavail, c'est une petite médiathèque qui a gagné le coup de cœur Livre Hebdo cette année, qui fait des choses formidables, où tout le village participe à la vie de la bibliothèque, avec un catégorie C, d'ailleurs, malheureusement, qui devrait être rémunéré bien plus, et 14 ou 15 bénévoles qui font des choses extraordinaires. Mais ça peut être aussi la petite bibliothèque Louise Michel, qui est vraiment un établissement qui reflète la vie communautaire et culturelle du quartier. Ça peut être le futur troisième lieu de Thionville, qui associera une bibliothèque, une scène, des centres de création musicale et un office du tourisme. Ça peut être un futur projet, on ne sait pas s'il verra le jour, à Yaoundé, qui s'appelle Media, qui est une espèce de croisement entre une bibliothèque nationale, une grande bibliothèque publique, où il y aura aussi une pépinière d'entreprises. Ça peut être plein de choses, en fait, mais ce qu'il faut faire pour définir ces projets, c'est d'abord bien comprendre à quels usagers on s'adresse, quelle mission on veut remplir. Bien sûr, tous ces projets sont extrêmement différents, donc loin de moi l'idée de dire que, effectivement, la bibliothèque troisième lieu, ça serait une recette quelconque à appliquer telle qu'elle. Ça n'a pas de sens. Et donc, ce qui est aussi important de comprendre quand on veut s'adresser à tout le monde, c'est qu'effectivement, il ne faut pas simplement être un bibliothécaire Télérama. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Daniel Le Goff, hein, le directeur de la bibliothèque de Limoges, me permet de remprunter des mots que j'ai empruntés à une autre bibliothécaire. Donc, il dit qu'effectivement, aujourd'hui, on a fait beaucoup de bibliothécaires Télérama, alors que 90% des gens lisent Télé 7 jours ou Télé Loisirs, peu importe. Et ça, c'est une réalité. Peut-être on ne veut pas la voir, cette réalité, mais c'est la réalité. C'est la réalité des élèves que j'avais en banlieue. Et il faut partir de celle-ci. Ça ne veut pas dire qu'on doit leur faire lire que Télé 7 jours, mais ça veut dire qu'il ne faut pas les mépriser. Et ça veut dire qu'il ne faut pas, s'il faut pas du tout évacuer Télérama et toute forme de culture élitiste, il faut qu'elle soit fortement présente aussi en bibliothèque. Il faut aussi être pleinement un lieu de culture populaire au sens noble du terme. Et de même qu'on est omnivore dans la vie, culturellement, on doit être omnivore aussi. On mange de tout, on s'intéresse à tout. Il faut absolument désacraliser la bibliothèque. Moi, j'ai fait un grand stage pendant ma scolarité à l'ENSIB, à la British Library, et partout vous avez, il n'y a rien à craindre, la vie, tout peut être compris, soyez les bienvenus, la culture est pour tous. La British Library, elle délocalise ses expositions en prison, elle fait des tas de choses avec les Roms, avec tout un tas de publics, et vous n'avez pas nécessairement, enfin je pense qu'on a de la marge pour progresser là-dessus, même à niveau d'une bibliothèque nationale. Et elle arrive à toucher des publics, tout le monde la connaît, la British Library à Londres. Hein. Ce n'est pas le cas de la BNF, où même des collègues enseignants ne savent même pas qu'ils peuvent y entrer gratuitement. Ça aussi, c'est une réalité. Donc il faut absolument déculpabiliser les usagers, leur signaler qu'ils sont les bienvenus, et il faut opter pour des modes d'approche de la culture plus horizontaux. Hein. Il y a Bernard Lahire qui parlait beaucoup de cette innocence culturelle, mais c'est la même chose, c'est-à-dire de ne pas... On peut très bien, effectivement, lire Proust, mais regarder des séries américaines ou des blockbusters, écouter du hip-hop, tout ça, c'est la vie. Et la culture et le plaisir, ils peuvent être étroitement associés. Chez nous, c'est difficile. Hein, c'est Bruno Maresca qui le dit, qui est un sociologue qui a beaucoup travaillé sur la perception des bibliothèques et des publics. C'est comme si c'était une horreur d'associer, je caricature un peu, hein, le fait d'apprendre, de se cultiver et la notion de plaisir. Or, c'est une erreur fondamentale. Dans l'apprentissage, on se rend de plus en plus compte qu'il faut absolument, même s'il y a la notion de l'effort, évidemment, qui est centrale, mais il faut du plaisir dans les choses. Et si l'infotainment et l'éducainment sont pensés intelligemment, au contraire, c'est une opportunité pour la bibliothèque. Une autre sociologue qui travaille avec le Centre Pompidou, d'ailleurs, et le musée, Chantal Daon, qui travaille essentiellement sur les publics adolescents, dit, effectivement, la notion même de culture se présente désormais comme solidaire de notions de loisirs, de divertissement et de communication. Elle parle de bouleversement des hiérarchies culturelles, elle aussi. Sur le net, il n'y a pas de différenciation entre la culture dite légitime et la culture populaire. Il faut en tenir compte. Et il faut faire de la culture, effectivement, une matière chaude, excitante, stimulante, riche à l'image de la vie, et pas quelque chose sous cloche, d'inaccessible. Il faut donner un vrai sens, effectivement, pour chacun. Moi, j'ai vu, par exemple, une formidable session sur le tatouage à la bibliothèque d'Hérougovart, où on avait fait venir des tatoueurs qui expliquaient ce que les gens se tatouent, enfin, qui montraient les techniques de tatouage, qui expliquaient ce que les gens se tatouent comme signe, qui avaient fait venir des conférenciers, hein, donc des universitaires, expliquant les tatouages. C'était pas farfelu du tout, mais c'était remettre de la profondeur à des pratiques du quotidien, en partant de partir de pratiques d'usagers, et en partant de choses qui les touchent eux. Donc pourquoi pas quelquefois faire le chemin inverse, partir de choses qui touchent les gens pour élargir leur horizon, au lieu de partir de trucs qui nous touchent nous pour convaincre, en résumant un petit peu les choses, les autres. Ce qui est aussi tout à fait intéressant, mais les deux démarches sont complémentaires. Donc, où elles sont, les collections dans la bibliothèque? Les collections, elles sont bien présentes. C'est vraiment une offre toujours très centrale, aux côtés d'une palette d'autres propositions culturelles et services. D'ailleurs, les usagers des ID Stores, 10 ans après, puisqu'on les interroge régulièrement, ils ont dit, effectivement, qu'ils souhaitaient que les ID Stores soient à nouveau recentrés autour du livre. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que le livre, il a toute sa place, mais il la partage avec d'autres choses, et dans des espaces plus accueillants, plus aérés, mieux agencés, mieux présentés, avec des collections valorisées, scénographiées, mieux reliées à l'actualité, au monde, aux ateliers, aux différentes actions de médiation. Et dans toutes les bibliothèques, ces livres, ils sont plus consultés, ils sont plus empruntés, donc c'est un tremplin pour les collections. C'est pas antinomique, donc elles sont présentées un petit peu à la façon des librairies, avec des zones parfois de quick choice quand on n'a pas le temps, ou bien mise en valeur dès l'entrée de la bibliothèque, comme à la librairie Ten. Dans une autre petite bibliothèque à Londres, ils ont réduit les rayonnages de 2/3 pour qu'on puisse voir davantage les collections, et ils ont plus de 100% en plus d'emprunts depuis. Alors ça nécessite une rotation des collections, mais les collections, elles sortent, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça, c'est Senayoki. À Jøring, dans le nord du Danemark, vous avez tout un fil rouge comme ça à travers la bibliothèque qui sert effectivement de fil de valorisation et qui conduit d'un espace à un autre. Et ça aussi, c'est une bibliothèque qui fonctionne extrêmement bien. Donc il faut penser les espaces non pas pour faire joli, mais il faut les penser en fonction d'usage. Alors on peut faire les deux, on peut faire joli et usage, c'est pas non plus antinomique. Et si on part vraiment des besoins des publics, il faut les appréhender dans leur globalité, dans une approche beaucoup plus holiste que ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'avec les besoins culturels, mais les besoins sociaux des personnes aussi, parce qu'on a une entité globale. Donc la bibliothèque, c'est un lieu, effectivement, ça dépend comment on la définit, mais à mon sens, pour moi, c'est un lieu pour s'informer, apprendre, se cultiver, travailler, découvrir, se détendre, s'amuser, échanger, peut-être même d'autres choses. Donc la bibliothèque, ce sont bien sûr et bien évidemment des livres, mais bien sûr aussi d'autres supports et d'autres usages et services. La formation tout au long de la vie, elle prendra toujours un rôle plus décisif. Et à mon avis, ça serait dommage qu'on ne joue pas cette carte-là, les débats, les rencontres et tout un tas de choses. Et il ne s'agit pas, là encore une fois, de mettre un joli canapé violet, mais d'insuffler une nouvelle dynamique, hein, de faire la bibliothèque un lieu très vivant, stimulant, polymorphe, qui est capable de répondre finalement à des besoins et des usages très variés, et parfois contradictoires, parce qu'on peut avoir besoin de tel type de choses et de silence ou de bruit. Et c'est pas, il ne faut pas être une réplique de l'univers scolaire. Dans l'univers scolaire, le professeur... En éducation de Harvard, donc c'est pas non plus farfelu, Howard Gardner dit effectivement qu'on a au moins une vingtaine d'intelligences. Or, dans l'univers scolaire, sont mises en valeur surtout de l'intelligence arithmétique et l'intelligence littéraire. Or, on a une intelligence kinesthésique, une intelligence artistique, une intelligence rythmique, tout ce que vous voulez, il dit même écologique, aussi une intelligence interpersonnelle, la capacité qu'on va avoir à entrer en relation avec les autres, qui est bien sous-évaluée malheureusement aujourd'hui encore. Et l'idée, c'est de pouvoir, quel que soit le type d'intelligence de chacun, que chacun puisse trouver son cheminement. Et la bibliothèque, elle doit refléter ça. D'ailleurs, les bibliothèques hollandaises l'ont bien compris, puisqu'elles s'inscrivent dans un programme inspiré de ces intelligences multiples qui s'appelle la bibliothèque des 100 talents, et il y a plein d'expérimentations en ce sens. Par ailleurs, la société, elle évolue, les besoins évoluent, donc au niveau social, au niveau technologique, la bibliothèque doit absolument réagir et intégrer ses besoins. Comme je vous le disais, la formation tout au long de la vie ou l'assimilation de compétences numériques ou de besoins de sociabilité. Là, je vais aller très vite pour vous montrer différents usages. Donc la lecture, hein, dans ce grand salon de lecture à Louise Michel, on peut faire ça un petit peu différent pour donner envie de lire. Ah non, c'est 10, on avait dit 35. Alors, je me dépêche. La lecture, la proximité avec les autres, le travail, l'étude, que ce soit en bibliothèque territoriale ou publique, il y a plein de façons de faire. On peut mettre des très jolis igloos, on doit faire pareil à la BPI. En groupe ou seul, c'est capital qu'on puisse travailler en groupe ou seul. De pouvoir faire tout un tas d'activités, communautaires ou seul, d'apprendre en autonomie ou avec un médiateur, et ça nécessite des ateliers clos. C'est très important. On ne peut pas apprendre n'importe comment et dans n'importe quelle circonstance. Ce n'est pas possible. Donc voilà, des espaces dédiés à ces pratiques d'apprentissage. Des espaces qui permettent de répondre à la fracture du numérique, d'apporter des réponses, des espaces en lien avec la recherche d'emploi, de pouvoir participer à des ateliers de toute nature, manuels ou non, et de pratiquer des instruments de musique éventuellement comme à la Library Ten, de création, des espaces de création, il y a de plus en plus d'espaces de création, des espaces permettant de favoriser l'échange, la sociabilité. Dans toutes ces bibliothèques, il y a des gens, il y a des études danoises qui disent qu'il y a 48% des gens qui sont en interaction les uns avec les autres dans les bibliothèques. Donc on est vraiment dans cette interaction de troisième lieu. Et j'ai mis volontairement des photos aussi de la British Library ou de BU, où ça se produit tout à fait aussi. C'est pas, on peut permettre de jouer aussi, c'est pas antinomique à tout âge. Et on peut permettre d'assister à des débats, des conférences, des concerts, des manifestations fédératrices. Par exemple, à la bibliothèque de Malmö, on pousse tous les rayonnages sur le côté et ça devient une grande scène amovible. Mais on peut aussi avoir des Fab Labs momentanés, on peut avoir tout un tas de choses. Là, c'est un concert. Et donc, pour tout ça, il faut que ça soit flexible sur roulette, que ça soit amovible. Vous voyez, ça, c'est la rotonde de la bibliothèque de Tarnby, qui est à la fois un lieu de diffusion de films, de rencontres et même de cours de gym. Comme ce que fait, entre parenthèses, le 104 avec les cours de tai chi le samedi matin. Et ce n'est pas complètement farfelu. Vous pouvez avoir des gradins qui servent à la fois d'espace de lecture ou de conférence, tout un tas de choses comme ça. En tout cas, il est temps de passer un petit peu des collections finalement à la connexion, pour reprendre cette formule danoise, et de centrer nos démarches sur l'expressivité, l'échange, hein, puisque les pratiques communicationnelles, créatives et culturelles tendent aujourd'hui de plus en plus à se rapprocher, voire à se juxtaposer à travers les activités sociales, discuter, converser, relater, etc. C'est cette dimension sociale de la culture qui devient déterminante. D'ailleurs, c'est ce qui est dit en substance également dans votre ouvrage, puisqu'il y a effectivement une nouvelle norme sociale collaborative. Il faut tenir compte de cette pluralité d'expression, de ces nouvelles formes de savoir et de légitimité, et évitons que la bibliothèque, en tant que laboratoire social, ne peut ignorer ces pratiques. Et donc, le nouveau programme pour les bibliothèques danoises, effectivement, mettre à disposition des collections, c'est une des missions parmi cinq autres qui est d'être un lieu de rencontre, de proposer des activités d'apprentissage, de donner aux étudiants des possibilités de travailler seul ou en groupe et d'offrir une scène locale. Donc il faut accentuer la dimension sociale de la bibliothèque, la rendre plus vivante. Et ça passe effectivement par un souci de maintenir à son degré le plus fécond le moteur et le sens de l'action des bibliothécaires, c'est-à-dire la rencontre avec l'usager. Là aussi, je cite l'ouvrage de Frédéric Saby et, excusez-moi, j'ai oublié votre prénom, mais Florence, voilà. Donc il va falloir faire une médiation renforcée, ça on en a beaucoup parlé, donc je vais passer un petit peu dessus, et ça va passer par tout un tas de choses, d'ateliers, de médiation, de clubs, de médiation numérique, de siestes musicales, de tout ce que vous voulez. La bibliothèque, la Library 10, ça c'est vraiment la force de cette bibliothèque qui propose des programmes d'accompagnement et d'éducation à la musique très très poussés, et ça marche excessivement bien. On va nouer davantage aussi de partenariats avec des entités extérieures, on va faire des ateliers de pratiques diverses, de conversations en langue, de travaux manuels, tout ce qui peut avoir sens dans le projet de la bibliothèque et tout ce qui peut fédérer. Et on va renforcer la vocation de la bibliothèque, la vocation sociale si ça s'y prête, avec des job clubs, des conseils juridiques, des aides à la vie citoyenne, de démarches administratives. Il y a même un DATS club dans les iDistance. Vous avez la même chose à la BPI avec les ateliers de FLE, par exemple, ou d'autres choses, ou les permanences d'écrivains publics prochainement. Et l'idée, c'est vraiment de favoriser la cohésion sociale et la citoyenneté. Il y a eu un projet de recherche au Danemark, au Suède et en Norvège qui s'appelle Place, donc sur le lieu bibliothèque comme sur la bibliothèque comme lieu, et qui dit en conclusion principale que le groupe qui utilise la bibliothèque pour d'autres usages que l'emprunt a un profil plus diversifié et socialement plus large que le groupe qui emprunte. Donc il faut tenir compte de ça. Et on a un grand rôle à jouer effectivement comme arène de l'intégration de la citoyenneté pour aider à nourrir la cohésion sociale et développer un vrai sentiment d'appartenance communautaire, pour lutter contre cette mixophobie et pour proposer davantage, pour participer à l'élaboration d'une société d'hospitalité. Voilà. Et donc, il faut favoriser absolument tous ces espaces de rencontre organisés par le biais d'ateliers fortuits ou volontaires. L'adage de la DOC, c'est notre meilleure collection, c'est les gens. À Yoring, il y a des gens qui se retrouvent tous les jours, des groupes de personnes âgées ou autres. Ce sofa sert c'est un lieu de rencontre pour associations, pour des gens qui tricotent, pour des femmes enceintes, pour tout un tas de gens qui l'investissent. Ce n'est pas la bibliothèque qui l'avait prévu comme ça, mais c'est des rassemblements spontanés des gens. Ça, c'est la British Library, où partout vous avez des possibilités de rencontre. C'est un troisième lieu à échelle nationale, mais ça fonctionne très, très bien. Toujours la Library 10. Et il y a des bibliothèques qui commencent à intégrer des espaces 3C. À Montréal, par exemple, que ce que c'est des espaces de créativité, collaboration et de connaissance. Donc, c'est des espaces dédiés pour favoriser les échanges entre usagers et sans technologie. Donc, les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils se réunissent et ça marche excessivement bien. Là, c'est dans la BU de l'École de technologie supérieure de Montréal et ça a été implanté par Vincent Audepta-Chapdelaine, qui avait déjà écrit un article sur les pratiques émergentes, les lieux émergents de ce type-là. Et on doit s'inscrire effectivement dans cette démarche de plus en plus participative et collaborative, hein, s'inscrire dans des choses mais qui ne sont pas complètement farfelues, hein, ça va de la conception du lieu à la réflexion participative sur les missions et les activités, à la présence de production d'usagers, à des open podiums, à des actions pédagogiques et des expositions interactives. Et en ce sens, le bibliothécaire, il est bien un passeur, un médiateur, un coach du savoir. Le projet de la démothèque au Danemark, c'est de pouvoir emprunter des productions d'usagers qui produisent ça sur place et de les emprunter. À Orne, les enfants ont réalisé tout le mobilier de la bibliothèque avec des architectes, mais il y a d'autres projets sur les collections. Partout, les usagers peuvent émettre des opinions ou des idées de service ou des envies sur les collections. On peut même tricoter. Ce boudin de tricot a été tricoté pendant 5 ans par différents usagers. Je finis. Hein. Voilà. Et donc, il faut absolument tenir compte aussi de l'inspiration et de l'intégration du coworking. Partout, les espaces de Fab Lab, qu'est-ce que c'est que ces espaces de coworking ? C'est des espaces qui favorisent l'échange, l'ouverture, le partage de connaissances et le gain de nouvelles compétences, surtout à un niveau technologique. Il y a la multiplication de ces espaces partout. Et les bibliothèques, elles doivent s'en inspirer et commencer à essayer d'intégrer ça. C'est ce que fait fera la médiathèque de Lezoux, qui proposera une cabane de coworking. Il y a le Meeting Point Helsinki, qui est un Fab Lab qui dépend de la bibliothèque principale d'Helsinki. C'est un projet pilote. En fait, c'est comme une contraction de library et laboratoire, donc de bibliothèque et de laboratoire. Ça doit permettre de développer des idées, des prototypes, des produits, des services pour le travail, les loisirs, le plaisir. Ça doit permettre une coopération publique-privée. Et surtout, ça doit mettre plein de gens en relation et les familiariser avec les usages des nouvelles technologies, imprimantes 3D, logiciels graphiques, leur montrer qu'il existe de nouvelles façons d'apprendre, de créer, de trouver des solutions en leur montrant le fonctionnement, justement. Créer et faire des choses ensemble avec l'aide de ce personnel très spécifique. Et donc ça a des très larges amplitudes horaires et ça marche tellement bien que ça va être implanté dans toutes les bibliothèques finlandaises à l'avenir. C'est fait, c'est déjà une réalité. Donc on peut dire en conclusion qu'effectivement, on peut se demander ce que c'est que tout ça, hein, s'il n'y a pas un peu une confusion des gens, si on n'est pas dans une boulimie, comme dit Anne-Marie Bertrand, à force de vouloir embrasser trop de missions, est-ce que la bibliothèque peut encore les mener à bien? Est-ce qu'elle a encore son essence, hein? Est-ce que le livre a encore réellement sa place? Qu'en est-il de la qualité des collections et de la place dévolue à celle-ci? Est-ce qu'on peut encore étudier? Est-ce qu'on peut encore se concentrer? Est-ce qu'on ne risque pas d'offrir la même chose que le secteur marchand sans plus-value? Le marketing, finalement, le branding, est-ce que ce n'est pas en opposition avec la transmission du savoir et l'essence du troisième lieu? Jusqu'où il faut contenter le client? Est-ce qu'on est dans les needs, les besoins ou les wits, les collections? Mais tout ça, je dirais que si on y réfléchit bien, si on se questionne finement, et si on caricature pas toujours tout, parce que c'est beaucoup le cas quand même. Moi, j'entends des choses quelquefois que je trouve vraiment... On parle de nuances et d'analyses, alors appliquons-les, ces nuances et cette analyse. Et il faut arrêter, encore une fois, de tout opposer. En tout cas, la bibliothèque troisième lieu, ce qu'elle doit permettre, c'est en une notion de revisiter la bibliothèque sous l'angle des publics et de l'humain. Et l'essence du troisième lieu, effectivement, ce n'est pas un espace design dépourvu de collections de missions, mais c'est bien plus un état d'esprit, celui d'un lieu de vie participatif autour de la culture, de l'information, des apprentissages, des loisirs, de la création des gens, dans lequel le livre a pleinement sa place, mais aux côtés d'autres supports. Et je finis avec des photos de Saint-Aubin-du-Pavail. Vous voyez, c'est très simple. Ils ont tout fait ça avec tout le village. C'est amovible dans tous les sens. C'est très participatif. Et ça draine une population bien au-delà de ce petit village. C'est la même chose avec Signy-l'Abbaye, où vous avez des gens. C'est une ville de 3000 habitants et il y a 3500 inscrits. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, à vous pour quelques questions.
Alors, je suis désolée, c'était très dense, mais l'idée c'était de vous montrer des choses différentes et je n'avais pas beaucoup de temps.
La question des collections, hein, est-ce que cette question et la façon de la formuler, hein, quid des collections? Est-ce que c'est une question qui se pose dans les pays que vous avez évoqués, les pays du nord de l'Europe, les États-Unis, etc. Enfin, tous les pays qui innovent, comme vous l'avez montré, est-ce qu'ils ont ce questionnement-là ou pas au cœur de leur réflexion?
Oui, mais moins que nous, et de façon beaucoup plus pragmatique. Eux, ce qui les intéresse, c'est si ça touche vraiment les usagers, si on répond vraiment à leurs besoins, à leurs demandes, et ils sont plus, effectivement, dans ce passage vraiment de ce que appellent des collections à la connexion, et donc comment on peut connecter les individus les uns avec les autres, autour, effectivement, de contenu culturel, informationnel, de loisirs, de divertissement. Leur souci principal, c'est davantage ce souci de connexion. Mais évidemment, il y a toujours des collections. Elles sont en Finlande, par exemple, les taux de lecture sont très élevés. Il y a des taux de fréquentation qui ne sont pas seulement dus au froid, parce que souvent on dit aussi que c'est possible dans ces pays-là parce qu'il fait froid. C'est aussi parce que la bibliothèque est pensée différemment. Ils sont au-dessus de 50%. Nous, Christophe Evans me disait l'an dernier, si je ne me trompe pas, que c'était aux alentours de 13%. Donc la marge est grande quand même.
Mais j'irais même un peu plus loin. Est-ce que au-delà du mot collection, du concept de collection, est-ce que le concept qui a émergé en France depuis, je sais pas, 10-15 ans, et moi j'ai fait partie de ceux qui ont poussé ce genre de façon de voir les choses, c'est le concept comme Bertrand Calange en parlait, la cognition, hein, le projet cognitif de la bibliothèque, est-ce que la question du savoir, du rapport à la connaissance, là aussi, est au cœur de la réflexion des bibliothécaires étrangers ou pas? Parce qu'on pourrait penser que non.
Eh bien, je pense qu'il y a davantage.
Une approche extrêmement pragmatique, purement, je dirais, humaine, au fond, hein, de service,
mais elle n'est pas
qu'humaine. Service aux gens, tout simplement, peut atteindre le même objectif, arriver au même objectif et même encore mieux, au fond, sans en parler et sans conceptualiser ce qui, nous, en tout cas en France, nous turlipine beaucoup, moi le premier d'ailleurs, la connaissance.
Hein. Mais ils travaillent avec des universitaires. Hein, ils travaillent. Et cette question des intelligences multiples, Howard Gardner, c'est un professeur de Harvard qui a quand même une renommée fabuleuse. Et c'est pas... Le problème, c'est quelquefois, on considère des choses comme anecdotiques. C'est pareil, hein, Sébastien Rocher ou des sociologues comme ça, ou Wellenbock, c'est pas des choses complètement fantaisistes. Il y a une vraie réflexion. Et c'est vrai qu'effectivement, ils réfléchissent beaucoup à la façon dont les gens peuvent apprendre. Et je pense que le problème, c'est que quelquefois, chez nous, effectivement, on a un même système d'apprentissage qui est plutôt élitistes, notamment à l'école, pour des populations. On a massifié finalement la population. Alors on a une même grille pour tout le monde. Et cette grille-là, elle ne fonctionne pas. Et c'est pareil en bibliothèque, elle ne fonctionne pas pour tout le monde. En tout cas, elle fonctionne pour certains, dont on peut faire partie ou non. Et ça, ils sont très sensibles à cette question-là. Ils sont très sensibles aussi par tous les biais, justement par le prisme de ces intelligences multiples, par tous les biais par lesquels on peut apprendre. Mais c'est valable aussi dans des tas de choses. Par exemple, si on apprend une langue, on peut apprendre à un niveau... Il y a les compétences auditives, il y a les compétences orales, c'est plein de compétences différentes qui vont être mobilisées. Il faut trouver tous les biais de stimuler ces moyens d'apprentissage.
Moi, j'avais juste une remarque, mais il n'y a aucune perfidie. Vous avez mis, à un moment donné, votre modèle sous l'emblème de l'agora grecque. Je vous rappelle quand même que l'agora grecque, il n'y avait ni les femmes ni les esclaves.
Je sais. Mais ça, c'est Roldenberg qui le dit, ce n'est pas moi. Et c'est beaucoup de bibliothèques qui sont, effectivement, qui parlent d'arènes ou d'arènes d'intégration sociale ou de choses comme ça. Mais là, l'idée, c'est qu'il y ait les femmes, effectivement, et tous les autres.
Une autre question ?
Bon, je crois que de toute façon, j'avais épuisé le temps qui m'était imparti, à moins qu'il y ait... C'est fini, non ? Peut-être là. Question.
Non, c'est pas une question, c'est une autre petite remarque. C'est que les bibliothèques des pays du Nord de l'Europe et des États-Unis avaient déjà beaucoup plus de public que les bibliothèques françaises il y a 20 ans ou 30 ans ou plus encore. Donc il y a là aussi le problème, je pense, d'une attitude, une appréhension plus générale des bibliothécaires qui est différente.
C'est vrai, mais en même temps, ça veut dire qu'on a une marge exponentielle énorme.
Oui, on a une marge de progrès, ça, voilà. C'est indiscutable.
Et c'est vrai qu'on voit... On voit aussi... Non, mais on voit... Moi, c'est pas du tout ironique quand je dis ça. Hein.
Mais moi non plus.
Voilà, non, mais c'est juste... C'est juste pour que, effectivement, on voit sur des nouveaux types de projets que quand même le succès, il est vraiment au rendez-vous quand on propose d'autres types de choses. Et il faut vraiment insister là-dessus. Il ne s'agit pas d'évacuer les collections, il ne s'agit pas non plus d'évacuer ce contenu plus traditionnel, mais il s'agit que ça cohabite avec d'autres choses. Et quand on ouvre, et ben ça fonctionne et les gens, ils sont davantage au rendez-vous. Parce que peut-être que ça leur correspond davantage.
Bon, je voudrais rebondir sur ce que disait Sophie. Est-ce que dans les bibliothèques du Nord, le maillage territorial est le même ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a les mêmes structures, la même offre culturelle qu'il y a dans beaucoup de municipalités françaises ?
Non, il y a plus d'offres culturelles chez nous, c'est évident.
D'accord. Parce qu'il y a aussi une dimension, qui est une dimension de partage à la fois des territoires, des domaines, des disciplines à l'intérieur d'une municipalité ou d'un territoire. Et qui fait que peut-être que la bibliothèque française est retranchée sur une partie qui est beaucoup plus partagée à l'intérieur dans d'autres pays, en fait.
Question. Non, c'est vrai, effectivement. On a une offre culturelle beaucoup plus riche, beaucoup plus diversifiée. Maintenant, si on est dans cet axe de troisième lieu, et toutes les bibliothèques n'ont absolument pas à être des troisième lieux, hein, il faut plein de types de bibliothèques différentes, il faut peut-être des types de bibliothèques complètement variés, mais en tout cas, si on prend cette optique-là, l'idée, c'est vraiment d'accentuer effectivement sur cette dimension humaine et cette dimension de rencontre, et beaucoup d'autres lieux ne peuvent pas le faire, parce que même si on parle de démocratisation culturelle dans les théâtres, ok, on va au théâtre, on a sa place, et après, qu'est-ce qu'on fait ? On se retrouve ou pas ? Et en plus, on se rend compte que même des initiatives comme Bobigny, et la danse, là, Bobigny, ça touche effectivement essentiellement des publics parisiens, ça touche pas les publics escomptés. Le 104, ça touche beaucoup de monde, ça touche éventuellement un peu les gens du quartier, mais ça les touche sur des offres quelquefois, c'est pas forcément sur l'offre d'art contemporain ou des choses comme ça que ça va les toucher. Donc si on veut vraiment toucher les gens, la bibliothèque, pour ça, il y a vraiment cette possibilité de lieu ouvert, gratuit, où on peut séjourner longtemps, où on peut, il n'y a pas de sas, en fait, qui est imposé par d'autres types de lieux culturels.
Merci. Et donc, nous faisons... Donc, on fait une petite pause de 10 minutes et on se retrouve à moins le quart pour la table ronde.